Examen de maturité de français, lycée de Listal 2023. Vous entendrez deux fois un enregistrement sonore de 7 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 4 minutes pour lire les questions, puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Lisez maintenant les questions.
Rassurez-moi, ça vous arrive aussi de sauter des parties d'une vidéo pour aller un petit peu plus vite. Ou alors de consulter vos messages, vos réseaux sociaux pendant que vous regardez un film. Personnellement, j'ai voulu me rassurer avec Valérie Camos. Elle est professeure de psychologie du développement à l'université de Fribourg. et je lui ai demandé si on avait bel et bien perdu une partie de notre capacité d'attention face à cette offre pléthorique de contenu auquel on a accès en streaming.
Non, fort heureusement, notre capacité attentionnelle, qui dépend du fonctionnement de notre cerveau, n'est pas diminuée. Elle va augmenter au cours de notre enfance, diminuer avec le vieillissement ou diminuer si on a un choc et une atteinte cérébrale. Mais notre capacité attentionnelle reste la même. Ce qui a changé, c'est la sollicitation qu'on fait à cette attention. Cette attention se retrouve à être éparpillée, dispersée, partagée au travers différents contenus. Ce qui fait que chaque contenu ne reçoit qu'une petite part de notre attention, d'où cette sensation peut-être de perte de capacité attentionnelle. Alors que c'est toujours la même, mais on va disperser cela sur plusieurs choses au lieu de la maintenir sur un seul objet. C'est au millième de milliseconde même parfois, et ce mouvement de sautillement est assez néfaste parce qu'elle prend l'habitude de ce sautillement. Et certaines personnes commencent même à s'ennuyer lorsqu'ils sont devant des programmes, des films. Alors ils appuient sur la touche d'avance rapide parce qu'ils trouvent que ça va trop lentement. Mais c'est parce que leur attention, elle a été habituée à sautiller vite.
Donc on passe moins de temps sur chaque tâche ou sur chaque chose sur laquelle on s'arrête.
Alors on peut penser soit qu'on passe moins de temps, alors ça veut dire que son attention va passer d'un objet à l'autre très rapidement, ce qu'on appelle des switches attentionnels. Donc l'attention sautille d'un objet à l'autre. Et donc, il faut du temps pour traiter les informations. Nous ne sommes pas aussi rapides que des ordinateurs. Si on ne laisse pas de temps, on traite que très superficiellement les informations. Et peut-être ça va encore nous donner cette sensation d'avoir perdu de la capacité attentionnelle.
Il y a quand même une modification de la manière dont on utilise ce qu'on reçoit ou ce qu'on voit.
Si votre attention ne reste pas suffisamment longtemps sur un objet, par exemple, un texte que vous êtes en train de lire, vous n'allez pas le traiter de façon profonde. Vous n'allez pas véritablement peut-être le comprendre si quelque chose vient solliciter votre attention. Donc votre attention, elle était en train de lire quelque chose, une appli par exemple, une alerte se fait, une notification, hop, votre attention part là-dessus, elle n'a pas fini son travail. Donc oui, dans un sens, ça modifie notre compréhension, les informations que l'on va stocker, les informations que l'on va apprendre aussi. Parce que pour apprendre, il faut passer beaucoup de temps sur un objet pour le traiter. Et si notre attention se trouve détournée au moment de l'apprentissage, l'apprentissage se fait mal aussi.
C'est quoi la différence entre attention et concentration ?
La concentration, c'est en fait une capacité attentionnelle. Dans le langage courant, on dit toujours l'attention au singulier, mais en fait, c'est faux. Il y a plusieurs types d'attention, c'est pluriel, et la concentration peut être considérée comme une capacité attentionnelle. Et principalement, cette capacité à maintenir notre attention pendant une durée assez longue sur un seul objet. Et c'est vraiment ça qui va souffrir avec les médias et toutes les alertes qu'on peut avoir sur Nonatel, par exemple.
En fait, on se retrouve à constamment faire des micro-choix. Sur TikTok, sur Instagram, je peux scroller sans fin et toujours avoir du contenu nouveau sous les yeux. Et puis si ça ne m'intéresse pas ou que je perds l'intérêt au bout de quelques secondes, je peux zapper en un glissement de doigts. Valérie Camos m'a expliqué que notre attention, elle a une place importante là-dedans. Parce qu'elle est la porte d'entrée vers notre pensée. Et les infos qu'elle laisse passer vont avoir des conséquences sur nos choix. Une partie d'entre eux sont d'ailleurs pas effectués sous notre contrôle conscient, quand on est attiré par un pop-up par exemple, ou une alerte, une notif. Mais si on prend le problème dans l'autre sens, est-ce que les contenus sont progressivement adaptés à cette attention qui a de la peine à tenir en place ?
Ça fait très longtemps que, principalement aux États-Unis, on applique ce que la psychologie a découvert, mais peut-être pas pour le meilleur des humains, sur la publicité, avec par exemple des programmes américains qui sont vraiment découpés sans arrêt en toutes petites sections avec des pages de publicité, parce qu'on s'est rendu compte que l'attention sautillant de plus en plus, les gens ont du mal à rester attentifs longtemps. C'est ce que a dû voir aussi Netflix, c'est-à-dire qu'on perd cette capacité à maintenir notre attention suffisamment longtemps alors on va proposer des contenus de plus en plus courts, de plus en plus denses. Et si vous regardez aussi l'évolution du cinéma, on se rend compte que ce qu'on appelait un film d'action dans les années 50 nous paraît être extrêmement lent dans l'action au contraire. Et les films qu'on regarde de nos jours, il y a énormément d'action rapide en fait. Et ça, c'est aussi le fait que notre attention est tout le temps sursollicitée et elle s'habitue à cette sursollicitation. Et elle en demande en fait.
Mais est-ce que c'est vraiment uniquement du négatif tout ça? Je m'explique. Ça m'arrive parfois de me balader sur Twitter en même temps que je regarde Top Chef pour lire les commentaires sur l'émission. Et puis c'est pareil quand je regardais la série The Crown. J'ai googlé les biographies de l'entier de la famille royale d'Angleterre au fur et à mesure des épisodes. Vous faites ça aussi? Est-ce qu'on serait pas en train d'augmenter notre capacité à faire plusieurs choses en même temps?
Alors, déjà, les êtres humains, ils sont très très mauvais en multitasking. D'accord? Enfin, on n'a pas été créé pour faire du multitasking. On a été créé pour être des animaux vivant dans notre environnement naturel, pas forcément pour être devant un ordinateur avec deux téléphones qui vont sonner et les alertes sur Internet. Donc le multitasking, c'est très dur pour nous, parce que justement, notre attention, il faut pas qu'elle se partage, il faut qu'elle prenne du temps pour traiter l'information. Et à chaque fois que vous sautez à autre chose, eh ben vous la détournez du travail qu'elle est en train de faire, alors qu'elle n'a peut-être pas fini son travail. Et c'est ça le problème. Donc, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, des grands joueurs de jeux vidéo qui travaillent beaucoup sur cette vitesse de switch attentionnel sont meilleurs dans des activités qui demandent ces switches. Mais ça ne nous montre pas qu'ils sont meilleurs, par exemple, en apprentissage ou en compréhension, parce qu'ils sautent très rapidement d'une activité à l'autre.
Il y a quand même des trucs pour essayer de dompter notre attention qui sautille d'un contenu à l'autre. Valérie Camos m'a dit que le plus important, c'est de prendre conscience de nos habitudes pour ensuite s'en détacher. Par exemple, se rendre compte du temps qu'on passe à scroller sur Insta ou dans les possibilités d'une plateforme de streaming et se mettre une limite temporelle. C'est aussi constater si on a trop d'onglets ouverts, si on a trop d'apps qui sont autorisées à nous envoyer des notifications et puis faire le tri entre ce qui nous est essentiel et ce qui l'est moins. Mais j'en conviens, c'est plus facile à dire qu'à faire. Rassurez-moi, ça vous arrive aussi de sauter des parties d'une vidéo pour aller un petit peu plus vite. Ou alors de consulter vos messages, vos réseaux sociaux pendant que vous regardez un film. Personnellement, j'ai voulu me rassurer avec Valérie Camos. Elle est professeure de psychologie du développement à l'université de Fribourg. Et je lui ai demandé si on avait bel et bien perdu une partie de notre capacité d'attention face à cette offre pléthorique de contenu auquel on a accès en streaming.
Non, fort heureusement, notre capacité attentionnelle, qui dépend du fonctionnement de notre cerveau, n'est pas diminuée. Elle va augmenter au cours de notre enfance, diminuer avec le vieillissement ou diminuer si on a un choc et une atteinte cérébrale. Mais notre capacité attentionnelle reste la même. Ce qui a changé, c'est la sollicitation qu'on fait à cette attention. Cette attention se retrouve à être éparpillée, dispersée, partagée au travers différents contenus. Ce qui fait que chaque contenu ne reçoit qu'une petite part de notre attention, d'où cette sensation peut-être de perte de capacité attentionnelle. Alors que c'est toujours la même, mais on va disperser cela sur plusieurs choses au lieu de la maintenir sur un seul objet. C'est au millième de milliseconde même parfois, et ce mouvement de sautillement est assez néfaste parce qu'elle prend l'habitude de ce sautillement. Et certaines personnes commencent même à s'ennuyer lorsqu'ils sont devant des programmes, des films. Alors ils appuient sur la touche d'avance rapide parce qu'ils trouvent que ça va trop lentement, mais c'est parce que leur attention, elle a été habituée à sautiller vite.
Donc on passe moins de temps sur chaque tâche ou sur chaque chose sur laquelle on s'arrête.
Alors on peut penser soit qu'on passe moins de temps, alors ça veut dire que son attention va passer d'un objet à l'autre très rapidement, ce qu'on appelle des switches attentionnels. Donc l'attention sautille d'un objet à l'autre. Et donc, il faut du temps pour traiter les informations. Nous ne sommes pas aussi rapides que des ordinateurs. Si on ne laisse pas de temps, on traite que très superficiellement les informations. Et peut-être ça va encore nous donner cette sensation d'avoir perdu de la capacité attentionnelle.
Il y a quand même une modification de la manière dont on utilise ce qu'on reçoit ou ce qu'on voit.
Si votre attention ne reste pas suffisamment longtemps sur un objet, par exemple, un texte que vous êtes en train de lire, vous n'allez pas le traiter de façon profonde. Vous n'allez pas véritablement peut-être le comprendre si quelque chose vient solliciter votre attention. Donc votre attention, elle était en train de lire quelque chose, une appli par exemple, une alerte se fait, une notification, hop, votre attention part là-dessus, elle n'a pas fini son travail. Donc oui, dans un sens, ça modifie notre compréhension, les informations que l'on va stocker, les informations que l'on va apprendre aussi. Parce que pour apprendre, il faut passer beaucoup de temps sur un objet pour le traiter. Et si notre attention se trouve détournée au moment de l'apprentissage, l'apprentissage se fait mal aussi.
C'est quoi la différence entre attention et concentration ?
La concentration, c'est en fait une capacité attentionnelle. Dans le langage courant, on dit toujours l'attention au singulier, mais en fait c'est faux. Il y a plusieurs types d'attention, c'est pluriel, et la concentration peut être considérée comme une capacité attentionnelle. Et principalement, cette capacité à maintenir notre attention pendant une durée assez longue sur un seul objet. Et c'est vraiment ça qui va souffrir avec les médias et toutes les alertes qu'on peut avoir sur Nonatel, par exemple.
En fait, on se retrouve à constamment faire des micro-choix. Sur TikTok, sur Instagram, je peux scroller sans fin et toujours avoir du contenu nouveau sous les yeux. Et puis si ça ne m'intéresse pas ou que je perds l'intérêt au bout de quelques secondes, je peux zapper en un glissement de doigts. Valérie Camos m'a expliqué que notre attention, elle a une place importante là-dedans. Parce qu'elle est la porte d'entrée vers notre pensée. Et les infos qu'elle laisse passer vont avoir des conséquences sur nos choix. Une partie d'entre eux sont d'ailleurs pas effectués sous notre contrôle conscient, quand on est attiré par un pop-up par exemple, ou une alerte, une notif. Mais si on prend le problème dans l'autre sens, est-ce que les contenus sont progressivement adaptés à cette attention qui a de la peine à tenir en place ?
Ça fait très longtemps que, principalement aux États-Unis, on applique ce que la psychologie a découvert, mais peut-être pas pour le meilleur des humains, sur la publicité, avec par exemple des programmes américains qui sont vraiment découpés sans arrêt en toutes petites sections avec des pages de publicité, parce qu'on s'est rendu compte que l'attention sautillant de plus en plus, les gens ont du mal à rester attentifs longtemps. C'est ce que a dû voir aussi Netflix, c'est-à-dire qu'on perd cette capacité à maintenir notre attention suffisamment longtemps alors on va proposer des contenus de plus en plus courts, de plus en plus denses. Et si vous regardez aussi l'évolution du cinéma, on se rend compte que ce qu'on appelait un film d'action dans les années 50 nous paraît être extrêmement lent, dans l'action au contraire. Et les films qu'on regarde de nos jours, il y a énormément d'action rapide en fait. Et ça, c'est aussi le fait que notre attention est tout le temps sursollicitée et elle s'habitue à cette sursollicitation. Et elle en demande en fait.
Mais est-ce que c'est vraiment uniquement du négatif tout ça? Je m'explique. Ça m'arrive parfois de me balader sur Twitter en même temps que je regarde Top Chef, pour lire les commentaires sur l'émission. Et puis c'est pareil quand je regardais la série The Crown. J'ai googlé les biographies de l'entier de la famille royale d'Angleterre au fur et à mesure des épisodes. Vous faites ça aussi? Est-ce qu'on serait pas en train d'augmenter notre capacité à faire plusieurs choses en même temps?
Alors, déjà les êtres humains, ils sont très très mauvais en multitasking. D'accord? Enfin, on n'a pas été créé pour faire du multitasking. On a été créé pour être des animaux vivant dans notre environnement naturel, pas forcément pour être devant un ordinateur avec deux téléphones qui vont sonner et les alertes sur Internet. Donc le multitasking, c'est très dur pour nous, parce que justement, notre attention, il faut pas qu'elle se partage, il faut qu'elle prenne du temps pour traiter l'information. Et à chaque fois que vous sautez à autre chose, eh ben vous la détournez du travail qu'elle est en train de faire, alors qu'elle n'a peut-être pas fini son travail. Et c'est ça le problème. Donc, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, des grands joueurs de jeux vidéo qui travaillent beaucoup sur cette vitesse de switch attentionnel sont meilleurs dans des activités qui demandent ces switches. Mais ça ne nous montre pas qu'ils sont meilleurs, par exemple, en apprentissage ou en compréhension, parce qu'ils sautent très rapidement d'une activité à l'autre.
Il y a quand même des trucs pour essayer de dompter notre attention qui sautille d'un contenu à l'autre. Valérie Camos m'a dit que le plus important, c'est de prendre conscience de nos habitudes pour ensuite s'en détacher. Par exemple, se rendre compte du temps qu'on passe à scroller sur Insta ou dans les possibilités d'une plateforme de streaming et se mettre une limite temporelle. C'est aussi constater si on a trop d'onglets ouverts, si on a trop d'apps qui sont autorisées à nous envoyer des notifications et puis faire le tri entre ce qui nous est essentiel et ce qui l'est moins. Mais j'en conviens, c'est plus facile à dire qu'à faire.